Bonjour, je m'appelle Jeanne Guin et je suis philosophe indépendante.
Eh bien bonjour Jeanne et bienvenue dans Du Poil Sous les Bras. Un Du Poil Sous les Bras dans lequel on va papoter ensemble autour d'un livre intitulé Le désir de nouveauté et sous-titré L'obsolescence au cœur du capitalisme 15e-21e siècle. C'est le troisième livre de Jeanne Guin et celui-ci est paru à La Découverte en 2025. Dans le désir de nouveauté, Jeanne Guin retrace la fabrication de notre besoin de consommer, la fabrique de l'envie, le désir de posséder. Bizarre quand on y pense, car on se dit que notre désir nous appartient, qu'il vient de nous. Eh bien, oui et non à la fois. Il vient de nous, mais ça ne vient pas de nulle part. La valeur des choses et notre envie d'en avoir ou pas, tout cela est construit par des discours et des pratiques. Des discours marchands, notamment, qui s'adaptent au gré des opportunités commerciales pour faire naître en nous le désir de consommer de la nouveauté. Alors avec Jeanne Guin, nous allons creuser ce concept de nouveauté. Qu'est-ce qui est nouveau? Ce qui est différent? Et nouveau, ce qui est dit nouveau? Tout peut être nouveau pour certains et pas pour d'autres. Nouveau à un endroit du monde, mais pas ailleurs. Et rien n'est nouveau pour toujours, puisque ce qui est nouveau ne l'est que la première fois. Après, c'est plus nouveau. La nouveauté est en soi limitée. Et qui juge de ce qui est nouveau? Et pourquoi? Dans quel but certains insistent pour dire de quelque chose que « mais oui, c'est nouveau » Pour inciter à des comportements, probablement. Il y a beaucoup à dire et à penser, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai bien sûr eu envie de demander à Jeanne Guin qui sont les gens comme elle.
Alors les gens comme moi, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue l'autre jour où il y a un plateau télé de vieux mecs blancs politiciens que je ne considère pas comme des gens comme moi, je vous rassure, donc de tous de droite. Et qui réagissent à l'incarcération de Nicolas Sarkozy et qui disent oui, la prison pour des gangsters, c'est un accident de parcours, c'est comme un accident du travail, mais pour des gens comme nous, c'est abominable, c'est affreux. Donc sous-entendu, il y a des gens, ils sont nés et faits pour la prison et pour eux, c'est leur environnement naturel. Mais les gens comme nous... c'est vrai qu'ils étaient tous semblables les uns aux autres, hein, ces mecs-là, sur ce plateau. Les gens comme nous ne supportent pas la prison. Après, il dit oui, la prison, c'est pour les animaux. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que nous qui sommes des humains. Donc, tous ces HSBC-là, ils étaient tous à hocher la tête, à faire oui, oui, oui. Et à aucun moment, il a défini ce que c'était les gens comme nous. Et cette phrase, elle sert vraiment à pas dire de quoi on parle. Moi, je n'aime pas trop. Voilà.
La petite blanc dans du poil sous les bras.
C'est aujourd'hui la 75e émission de Du Poil Sous les Bras, une émission qui existe depuis 2018. Ce n'est plus très nouveau. Et pourtant, c'est une nouvelle émission. Et pour certains, c'est même une nouveauté complète. Alors, puisque c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, j'ai demandé à Jeanne Guin de nous expliquer ce qu'est la nouveauté.
Alors dans mon livre, je me suis intéressée à la nouveauté comme qualité marchande. C'est une expression que j'emploie à plusieurs chercheurs, chercheuses, notamment Michel Calon et tous ses co-auteurs, co-autrices. C'est une qualité marchande, c'est-à-dire c'est une qualité qu'on va attribuer à des produits par l'intermédiaire de toutes sortes de techniques de communication, d'emballage, de présentation en magasin, etc., qui est censée lui donner de la valeur. Et donc dans mon livre, je m'intéresse à toutes ces manières dont on a qualifié, décrit, présenté, vendu des produits comme étant nouveaux. Ça, c'est la méthode. Après, ce que signifie la nouveauté, évidemment, ça m'a échappé au fur et à mesure du livre, puisque j'étudiais cette qualification marchande dans tous ses paradoxes, ses travers et ses exagérations. C'est-à-dire que c'est une chose très simple, on s'en rend compte tout le temps, on nous vend des produits comme nouveaux alors qu'ils ne le sont pas, ou alors qu'ils le sont depuis très longtemps, de façon extrêmement exagérée, en accordant de l'importance à des choses qui n'en ont pas, etc. Donc il y a énormément de manières de qualifier un produit comme nouveau, et ces manières sont souvent abusives. Et donc c'est vrai qu'à fur et à mesure que j'étudiais donc tous ces produits et tous ces discours sur plusieurs siècles, ben, j'ai fini par me demander, mais est-ce que ça existe vraiment la nouveauté et qu'est-ce que c'est? Alors j'ai essayé de la définir dans un premier temps de façon philosophique, hein, c'est-à-dire en prenant le concept, en me disant qu'est-ce que c'est sa définition minimale, quelque chose de nouveau, c'est d'abord quelque chose qui est inédit, c'est-à-dire qui se produit pour la première fois. Et c'est aussi quelque chose à qui on attribue une certaine importance. Il y a plein de choses nouvelles, enfin, il y a plein de choses inédites qui se passent chaque jour. Il y a des gens qui créent des choses, mais on ne ressent pas pour autant le besoin de dire « Ah, c'est une innovation, regardez cette nouveauté ». Donc, quand on parle de nouveauté, en général, c'est pour aussi accorder de l'importance à quelque chose. Ça veut dire que cette chose va changer l'histoire, que tout le monde doit s'en saisir, que c'est une innovation majeure. Et donc, en m'intéressant à ça, je me suis dit « Mais en fait, ce concept de nouveauté, il est vraiment très, très... très très mégalo en fait. Pour parler de nouveauté, il faut être capable de voir tout le passé, de se dire ah ça arrive pour la première fois, donc d'avoir une connaissance générale du passé, et il faut aussi avoir une certaine connaissance du futur pour dire que c'est important, que ça va changer l'histoire. Donc c'est vraiment un concept très difficile à manipuler. Qui peut dire que quelque chose est nouveau, avoir cette connaissance magique de tout le passé et de tout l'avenir? Pas grand monde en fait. Et c'est pour ça que je pense que ce concept est tellement manipulé et manipulatoire, c'est-à-dire qu'on l'emploie à tort et à travers. Dans mon livre, je donne énormément d'exemples de tous ces produits anciens qu'on a présentés comme nouveaux, tous ces produits qu'on a présentés comme nouveaux alors que tout le monde s'en fichait et qu'au bout de 2 mois, on les a retirés des rayons tellement personne ne les achetait. Bref, cette manière qu'on a de crier à la nouveauté pour tout et n'importe quoi dans le seul but de faire vendre, et qui souvent ne prend pas, hein, la grande majorité des nouveaux produits, des nouvelles marques mises sur le marché disparaît très rapidement dans les mois qui suivent leur commercialisation. Ça ne marche pas toujours, mais il n'empêche que le mot même de nouveauté est devenu une valeur en soi. Et que parler de nouveauté, ça attire l'attention, ça attire la sympathie, ça attire l'intérêt. Et c'est vraiment sur cette émergence d'une valeur en soi à travers des techniques marchandes, des stratégies commerciales que je me suis attelée à travailler. Voilà.
Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'obsolescence programmée, la façon dont les entreprises programment par exemple la fin de vie d'un produit pour qu'on soit obligé d'en racheter un neuf. Mais il y a pire hein, encore, il y a l'incitation au renouvellement régulier de biens qui fonctionne uniquement parce que vous voulez de la nouveauté. Et si le sous-titre du livre de Jeanne Guin indique 15e, 21e siècle, eh bien c'est bien parce qu'il y a une longue histoire à cette construction de la nouveauté. On ne naît pas amoureux de la nouveauté, mais on le devient, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr, l'amour pour la nouveauté, le désir de la nouveauté, pour moi, il a une généalogie marchande, il a des origines commerciales. Vraiment, ce livre, il insiste sur les origines marchandes de notre intérêt pour la nouveauté. Et donc, je retrace à travers toute l'histoire du capitalisme, c'est peut-être pas toute l'histoire, puisque je commence à la fin du XVe siècle. On pourrait sans doute aller un peu plus loin, un peu plus dans le passé. Mais bon, il fallait bien commencer quelque part. Donc je m'intéresse à différents aspects du commerce, à différents moments de l'histoire du grand commerce mondialisé. Pas non plus à tous les moments, hein, ce n'est qu'un livre. Mais il est organisé voilà, de façon à montrer que dans différents moments du capitalisme et autour de différentes formes de commerce qui ont été assez importantes pour comprendre comment on commerce aujourd'hui, eh bien, il y a toujours eu cette volonté de parler de nouveautés, d'attribuer un caractère inédit et hyper important aux produits qu'on importait ou qu'on fabriquait, dans le but de les écouler, et de les écouler en masse. Et c'est ça qui fait un peu le lien entre toutes les périodes que j'étudie, c'est-à-dire très souvent, l'injonction à acheter de la nouveauté, elle se replace dans un contexte de surproduction ou de surimportation. On a fabriqué tellement de produits que il y a un risque de crise de saturation du marché, ça veut dire de surproduction. Ça veut dire qu'en gros, on a trop d'objets et pas assez de gens pour les acheter. Et à ce moment-là, c'est là qu'intervient le discours de nouveauté pour attirer l'attention de gens qui, sans ça, ne se seraient pas du tout intéressés à ces produits. C'est lorsqu'il y a des produits en trop grand nombre qu'on dit « oui, mais c'est parce que c'est des produits que vous ne connaissez pas encore ». Vous ne vous y intéressez pas parce que vous ne connaissez pas. Vous avez peur du progrès. Vous êtes ignorant. Vous n'avez jamais fait l'expérience de cette nouveauté qui va changer votre vie. Donc c'est toujours dans des contextes de sur-offre qu'on va clamer nouveauté, nouveauté, nouveauté pour faire vendre des choses qui sans ça ne se seraient pas vendues.
Dans son livre, Jeanne Guin explique que rien n'est en soi féminin, pratique, léger, pas cher, hygiénique, cool, blanc, jeune. Mais un produit peut le devenir à un moment donné lorsqu'il est qualifié de la sorte par des discours si omniprésents qu'on en vient à croire à l'existence de la féminité, de la jeunesse ou de la coolitude des choses. Et ces discours sont ceux du marketing, de la publicité, de la communication. Derrière la fabrique de la nouveauté, il y a la fabrique d'un besoin.
C'était important pour moi de travailler sur ce sujet parce que moi, je suis chercheuse spécialisée sur l'obsolescence. J'ai fait ma thèse sur la notion d'obsolescence, obsolescence programmée, donc sur tous ces objets dont la durée de vie est réduite volontairement pour en faire acheter plus, plus souvent. Et dans ce contexte, je me suis rendu compte que très souvent, le désir de nouveauté vient justifier l'obsolescence. C'est-à-dire que quand vous allez dire à des industriels, à des politiques, à toutes sortes d'acteurs intéressés à l'obsolescence, qu'ils font de l'obsolescence programmée et que l'obsolescence programmée est un problème, d'abord, ils vont commencer par dire « Non, nous ne faisons pas d'obsolescence programmée. » Et quand après, vous allez leur montrer des exemples, ils vont dire « Ah oui, c'est vrai que la durée de vie de ce produit est réduite, mais c'est parce que... » Et là, ils vont essayer de justifier l'obsolescence, donc ils la reconnaissent en sous-main, et ils essayent de la justifier. Et très souvent, pour justifier l'obsolescence, ces acteurs-là vont dire « Mais c'est parce que les gens veulent de la nouveauté. Parce que l'innovation, les nouveaux produits, c'est ça qui intéresse les gens. Le progrès, c'est vers ça que tend naturellement l'humain. » Donc, en fait, dans le discours de tous ces acteurs, on prétexte dans la population, dans les consommateurs, dans les clients, et plus souvent d'ailleurs les clientes, on prétexte un désir inné de nouveauté. Donc c'est pour ça que je dis que le désir de nouveauté, oui, il a été fabriqué, mais il est vraiment fabriqué comme un élément de discours, comme un élément de langage. Chaque fois qu'une technologie est contestée, chaque fois que des pratiques industrielles sont critiquées, on va dire « Ah oui, mais c'est parce que les gens veulent ça ». Donc on prête toujours la faute aux consommateurs, on leur renvoie la culpabilité. Et donc j'avais vraiment envie de montrer comment ce discours, il est fabriqué, comme vous l'avez dit. Il est fabriqué, mais il est fabriqué dans des contextes de crise, des contextes de critique. Plus une technologie est critiquée, plus des fabricants de discours, des communicants, des publicitaires, des cadres vont eux aussi se mettre à produire du discours pour dire pourquoi cette technologie, en fait, elle est bonne et il faut l'acheter. Et en général, c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à dire que les gens veulent de la nouveauté. Donc, quelque part, plus vous entendez clamer qu'un produit est innovant, qu'il est génial, plus vous pouvez supposer qu'en fait, ce produit, personne n'en veut, voire qu'il est critiqué. Ceux qui se clament comme nouveauté s'avouent toujours déjà un petit peu comme vulnérables. Et là, c'est ce qui se passe avec toutes les technologies pour lesquelles on nous présente comme le futur, comme l'avenir, etc. Donc aujourd'hui, ça va être l'intelligence artificielle, par exemple. Il y a quelques années, c'était la 5G, etc. Bon, ça change régulièrement, mais c'est toujours les mêmes discours, toujours le même blabla. C'est, on nous dit, ah mais c'est parce que c'est l'innovation, c'est le progrès. Mais c'est justement parce que ces technologies ne sont pas encore pleinement installées, parce qu'elles sont très critiquées, très attaqué par des militants, par des activistes, par des politiques qui ont un doute en fait au niveau de leur avenir, qu'on va rajouter des couches et des couches de discours pour dire c'est l'innovation, c'est le futur et c'est ça que les gens veulent. Mais les gens ne sont jamais exprimés dans ce sens.
Tous ces discours cherchent à masquer le vide, l'arnaque ou même des problèmes, des vrais problèmes liés aux produits. On ne nous vend pas un objet, mais une expérience, une esthétique, une classe sociale, une appartenance à une communauté, à la communauté de ceux qui possèdent. Consommer revient à s'approprier ce que d'autres n'ont pas, à affirmer une puissance, nous dit avec justesse Jeanne Guien.
Oui, plus la nouveauté devient une valeur en soi, moins on discute sur ce qu'est l'objet dont on parle. C'est-à-dire que un objet technique, un produit, une technologie, ne devrait pas être jugé en fonction de sa nouveauté. Elle devrait juger en fonction de son utilité, éventuellement en fonction de sa beauté, et puis aussi, je pense, en fonction des conséquences qu'elle a sur le monde du travail et sur le monde social en général. Donc son utilité technique, mais aussi son utilité sociale, ses effets dans le monde. Et si on met en avant sans cesse la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté, ça permet justement d'éviter que ce débat ait lieu. Et c'est pour ça qu'il est important de rappeler que la nouveauté n'a pas à être une valeur en soi, comme le serait par exemple la santé. La santé est un bien en soi, on désire la santé pour elle-même, pour être en bonne santé, pas pour autre chose. La nouveauté, par contre, le fait qu'un produit arrive à tel ou tel moment de l'histoire, qu'il soit jeune ou ancien, ou récent ou vieux, ça ne nous dit rien de son utilité réelle et de son impact social. Quelque chose peut être très bon, très utile et très favorable à la vie en collectif, tout en étant ancien. Inversement, quelque chose peut être nouveau et n'avoir aucune valeur. Et inversement, quelque chose peut être vieux et sans valeur. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir. L'âge ne nous dit rien, en fait, de l'intérêt à adopter collectivement ou pas une technique.
La nouveauté n'existe pas dans le présent. Elle est en train d'advenir. Philosophiquement furtive, elle n'est pas figée et par-dessus tout, elle est construite, décidée par des personnes qui ont des intérêts à nous faire croire à la nouveauté. Et cerise sur le gâteau, comme le disait Jeanne Guin, les marques arrivent à nous faire croire qu'ils ne font que répondre à la demande de nouveauté, demande qui émanerait de consommateurs et surtout de consommatrices. Ben oui, c'est tellement plus pratique d'accuser les femmes.
Dans le discours qui prête à la population, aux humains en général, un désir inné de nouveauté, il y a déjà un abus parce que cette population ne s'est jamais exprimée. On leur prête un désir qu'ils n'ont pas exprimé. Et en plus, il y a des contradictions parce que quand on gratte un peu, quand on regarde un petit peu, quand on va vraiment chercher ces discours-là, on voit qu'en fait, ce n'est pas du tout de l'humanité en général qu'on parle. On voit qu'on parle, en fait, on introduit toujours des catégories de population, des discriminations. Donc, par exemple, très souvent, on va dire oui, les humains aiment acheter des nouvelles choses, aiment le renouvellement de l'apparence des objets, ne peuvent pas s'empêcher d'acheter la dernière mode. Quand des auteurs disent ça, en général, après, ils se mettent à parler des femmes. Donc, c'est toujours la faute des femmes. C'est toujours les femmes qui veulent consommer plus, qui sont passionnées de shopping et de mode. Ou, autre exemple, si on regarde dans les discours qui innovent, bah, c'est toujours des hommes blancs venus de pays riches, venus du Nord. Et inversement, les populations non blanches, les populations du Sud, de pays anciennement colonisés ou actuellement colonisés, sont toujours décrites comme en retard, comme n'étant pas capables d'innover, comme ayant des techniques du passé, comme même pas étant contemporaines des innovateurs. Donc, on voit très bien qu'en fait, la capacité à innover et la sensibilité au rachat sont en fait inégalement distribuées dans la population à travers ces discours. Elles sont inégalement reconnues et c'est toujours selon des lignes de discrimination très classiques, le sexisme, le racisme, l'agisme aussi beaucoup. Hein, on remarque, et ça c'est notamment très fort dans la publicité, quand il s'agit de vendre un nouveau produit, il s'agit toujours de dire que c'est un produit pour les jeunes et que les jeunes vont aimer ce produit parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ne veulent pas ressembler aux vieux. Donc toujours, en tout cas dans un premier temps de la vente d'un produit, de sa commercialisation, on va dire « ce produit est pour les jeunes, et grâce à ce produit, tu ne vas pas ressembler à tes parents ou tes grands-parents, tu vas être vraiment jeune ». Puis après, plus le marché grossit, plus évidemment la marque est intéressée à conquérir aussi le marché des personnes plus âgées. Par ailleurs, les personnes plus jeunes à qui vendaient au début ont vieilli, donc le discours se transforme un petit peu. Mais il y a énormément d'agisme aussi présent. Donc en gros, la nouveauté est toujours rattachée à des populations jeunes. Lorsqu'il s'agit de la nouveauté comme acte de consommation, c'est aux femmes. Quand il s'agit de la nouveauté comme acte de production et d'invention, c'est aux hommes et aux hommes blancs.
Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille. On m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si j'ai l'air virile, fille virile. Depuis que je suis gamine, maman sait que je masculine, une fille virile, une fille virile. Pareil que je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre comme un garçon de me laisser faire. Comme une fille, on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard comme une fille, change de trottoir comme une fille, marche plus vite comme les autres filles. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si j'ai l'air virile, fille virile. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis ma. Une fille virile, une fille viril. Maman sait que je suis masculine. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine, une fille virile, une fille virile.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Vous êtes bien sur votre radio FM et vous venez d'entendre Viril de Suzanne. J'adore ce morceau. Si vous écoutez la version podcast sans musique, allez découvrir Suzanne et ce morceau, notamment Viril. Reprenons notre petite discussion autour du désir de nouveauté avec la philosophe Jeanne Guyen. La construction de la nouveauté ne date pas d'hier. Prenons un exemple pour saisir l'ampleur du phénomène. Dans la première moitié du XVIIe siècle, 3 millions de pièces de porcelaine ont été importées aux Pays-Bas. Pourquoi donc ? Eh bien parce que des colons européens ont un jour découvert la porcelaine de Chine et pour se faire de l'argent, ils ont décidé qu'il fallait absolument avoir une pièce de porcelaine si l'on voulait appartenir à la caste des gens de bon goût qui aiment la nouveauté. C'est un exemple parmi d'autres. La fabrique du désir de nouveauté s'est toujours bien accommodée avec le colonialisme et le capitalisme.
Ce que j'observe à travers mes recherches, c'est que l'allégation à la nouveauté, le fait de dire qu'un produit est nouveau ou innovant, ça sert aussi souvent à réenchanter l'histoire de ce produit ou en tout cas à dissimuler en fait, le caractère extrêmement violent et prédateur de à peu près toutes les productions qui ont existé à travers l'histoire du capitalisme. C'est pas exagéré que de dire que la plupart des produits qui ont été fabriqués et donnés et distribués sont basés sur des formes de prédation plus ou moins violentes, de l'esclavage pur et simple jusqu'à de l'exploitation en usine ou à la distribution. Et ça, c'est une constante aussi. Et j'ai pu remarquer que très souvent, voilà, parler d'innovation, parler de mode, parler de nouveautés, parler de produits neufs, etc., c'est aussi couper un produit de son histoire. Ça participe de ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire qu'on est tout le temps à nous faire voir les produits comme apparaissant pour la première fois dans leur espace de vente. On n'a pas accès à l'avant, à l'amont de la production. Et c'est ça aussi l'enjeu, évidemment, de faire une histoire industrielle, une histoire de parler du consumérisme en allant chercher l'histoire des produits, c'est de remontrer à nouveau cette histoire. Parce que si vous cherchez des informations sur des marques ou des entreprises ou des produits, en général, ces marques vont vous sortir une histoire qui est complètement enjolivée. Hein. En général, vous avez à peu près toujours la même histoire. Si vous allez sur le site d'une marque, vous allez à l'onglet « Qui sommes-nous ?» et vous trouvez un petit paragraphe très court qui vous dit ce qu'en gros, il y avait dans la population un besoin. Et cette population était très malheureuse parce que c'était avant. Et avant, ça n'allait pas du tout. Et donc avant, les gens n'avaient pas tel ou tel produit, étaient très malheureux. Et puis un jour, il y a eu quelqu'un, en général un homme blanc d'un pays du Nord, qui s'est dit « Ah, on va pas laisser les gens comme ça », parce qu'il était très gentil. Et puis aussi, il était très intelligent. Donc il a eu une très bonne idée. Donc il a beaucoup travaillé, cet ingénieur. Il a créé quelque chose, il a innové, il a inventé. Et puis il y avait une entreprise, une gentille entreprise très philanthropique, qui a bien voulu lui donner les fonds pour développer son invention. Et paf, ça a fait des chocs à pic. En gros, ils ont fini par développer ce produit. Et ce produit s'est diffusé dans le monde, partout, de façon très simple et très pacifiée. Et ça a permis de répondre à des besoins qui aujourd'hui sont satisfaits. C'est en général à peu près ce conte de fées que l'on trouve dans ces pseudo-histoires, ces pseudo-récits. Et c'est contre cette fausse histoire aussi que j'ai voulu travailler. Hein, parce que moi-même, en faisant mes recherches sur des produits, je tombe toujours sur ce genre d'histoire. Sur les sites internet des marques, sur les livres soi-disant d'histoire qui produisent sur leur histoire eux-mêmes. Enfin bref, vous trouvez énormément de pseudo-récits et c'est important, au contraire, de montrer que la plupart de ces produits sont liés à des prédations, sont liés à de l'esclavage, sont liés à de l'exploitation, sont aussi liés à une forme d'imposition aussi. C'est important de rappeler que beaucoup de produits qui étaient contestés lors de leur introduction sur des marchés, donc sur les marchés de consommation, après qu'ils étaient fabriqués, étaient contestés et que pour certains, on les a imposés, que personne n'en voulait. Donc c'est vraiment important de rappeler cette violence-là Parce que malheureusement, aujourd'hui, le monde de la consommation est très enchanteur. Il est entouré de discours, entouré de paillettes, mais la vérité, elle n'est pas du tout celle-là. Un exemple de cette pseudo-histoire produite par les entreprises, ça peut être par exemple le cas de Kleenex. Donc on connaît bien Kleenex en France, c'est devenu un mot générique pour dire mouchoir jetable. Et Kleenex est effectivement la marque qui a lancé le mouchoir jetable. Alors je raconte brièvement son histoire. Donc c'est une marque qui a été déposée par un groupe qui s'appelle Kimberly-Clark. Kimberly-Clark, donc à la base, ils faisaient du papier aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Et ils ont, pendant la Première Guerre mondiale, ils ont produit beaucoup de bandages et de filtres de masques à gaz. Donc évidemment pour les soldats engagés dans la Première Guerre mondiale. À partir d'un matériau qui s'appelle le cellucoton, qui est une fibre de celluloïde qui permet d'éviter d'acheter du coton. C'est équivalent. Et donc ils produisent tous ces bandages et filtres de masques à gaz pendant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale termine, ils se retrouvent avec énormément de ces produits sur les bras. La Croix-Rouge les renvoie, l'État, la Défense les renvoie. Donc, ils ont une crise de surproduction. Ils ont trop de produits. Et donc, ils missionnent des ingénieurs pour trouver des produits civils à vendre à partir de ce cellucoton surnuméraire. Et donc, c'est ces ingénieurs-là qui vont, au début des années 1920 aux États-Unis, proposer deux produits. Donc, Kotex, qu'on connaît pas trop en France, c'est une serviette hygiénique, mais c'est un produit très important parce que c'est vraiment ce produit qui a lancé le marché de masse pour la serviette hygiénique jetable. Ça existait avant 1921, mais c'était vraiment des petits marchés. À partir des années 1920 et à partir de Kotex, ça se massifie aux États-Unis et après, c'est exporté dans le monde. Et Kleenex, qu'on connaît en France, donc le mouchoir jetable. Et dans un premier temps, donc en 1924, quand Kleenex est mis sur le marché, c'est vendu comme un produit pour se démaquiller et pour enlever les surplus de crème. Donc je cite la publicité, des publicités qui mettent en scène des femmes, des actrices, des femmes très belles, très sophistiquées, très maquillées, en train, à leur coiffeuse, quoi, en train de s'appliquer des Kleenex pour se démaquiller ou enlever donc le surplus de crème, car c'est bien connu, quand on met de la crème, parfois il y en a un peu trop. Et donc il faut absolument un produit jetable, n'est-ce pas, pour éponger cette crème. Je suis ironique, mais c'est ça que dit la publicité. Ça correspond en fait à l'époque à ce que nous on utilise aujourd'hui comme disque à démaquiller. Voilà, d'abord c'est ça Kleenex. Et ça s'appelle pas un mouchoir, ça s'appelle un facial tissu, donc une pièce de textile pour le visage, quoi. Et en fait, ça marche pas. Ils vendent ça, ça marche pas, mais au bout de 2-3 ans, ils font des études de marché et ils se rendent compte que les gens déclarent utiliser Kleenex plutôt pour se moucher. À l'époque où on utilise massivement le mouchoir en tissu, réutilisable, lavable, etc. Et donc, ils vont faire ce que les marketeurs appellent un repositionnement du produit, c'est-à-dire ils vont le requalifier, nous on dirait plutôt, de facial tissu à mouchoir pour se moucher. Et donc là, les publicités changent totalement. Exit les belles femmes à leur coiffeuse. On voit donc plutôt des enfants, notamment des enfants malades, parce que ça fait de la peine. Des docteurs qui recommandent Kleenex pour se protéger des bactéries. Des mamans avec leurs enfants. Enfin bref, un peu toute la famille, un contexte familial de maladie avec de pseudo-conseils de docteurs qui expliquent que le mouchoir en tissu, c'est dégueulasse, c'est dangereux pour votre santé, qu'il faut absolument l'abandonner. Et donc ce qu'on appellerait aujourd'hui du rebranding ou du repositionnement marketing, après a fonctionné et Kleenex est devenu le mouchoir jetable qu'on voit en masse aujourd'hui. Si aujourd'hui vous allez sur le site de Kleenex, vous aurez une histoire qui vous raconte qu'il y a un ingénieur au début des années 1920 qui s'est servi d'un produit sanitaire, hein, parce que les bandages et les filtres de matériel légal, c'est déjà sanitaire, pour faire un produit bon pour la santé, qui a permis de développer des habitudes d'hygiène dans le monde entier, etc. Voilà l'histoire que vous obtiendrez. Or, moi, l'histoire que j'ai pu trouver, c'est l'histoire d'une entreprise qui a une crise de surproduction, qui cherche à rentabiliser des surplus, donc qui a un problème économique, qui demande à des ingénieurs de développer des produits pour écouler ses surplus avant tout, et qui, pour écouler ses surplus, choisit des produits qui, à la base, le mouchoir jetable, qui est à la base un produit cosmétique et pas du tout un produit hygiénique. Et qui va requalifier ce produit comme hygiénique parce qu'elle voit que ça marche plus et que ça vend. Donc voilà comment on peut opposer deux histoires, un récit et un contre-récit qui se base beaucoup plus sur ce que l'entreprise a fait et pas sur ce qu'elle prétend a posteriori avoir fait de bien.
Alors, moi je suis OK avec tout ce que vient de dire Jeanne Guin, mais quand même, c'est pratique, le mouchoir jetable, c'est hygiénique. Heureusement qu'on a des mouchoirs jetables par ces temps de grippe. Eh bien, quand j'ai dit ça à Jeanne Guin, voilà ce qu'elle m'a rétorqué.
L'argument hygiéniste, alors il est omniprésent dans les publicités pour les produits jetables. Il est vraiment omniprésent avec cette idée que réutiliser quelque chose, et notamment quelque chose qui est en contact avec les fluides corporels, est très dangereux. Vous trouvez ça dans les publicités pour les serviettes hygiéniques, vous trouvez ça dans les publicités pour les mouchoirs, vous trouvez ça dans les publicités pour les serviettes en papier, pour les pailles, pour les gobelets. Enfin, je l'ai observé partout. C'est un argument abusif pour une simple raison, qui est que nos fluides corporels ne sont pas dangereux pour nous. Certes, le corps les expulse, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont infectés ou infectieux. Ils peuvent l'être si on est malade, mais ils ne le sont pas lorsqu'on est en état de santé classique. Donc utiliser une cup, un verre, réutiliser son verre, utiliser un mouchoir en tissu, utiliser une culotte menstruelle n'est pas dangereux. Hein, c'est absolument pas dangereux. Mais l'argumentaire hygiéniste est tellement puissant qu'il tend à nous faire considérer nos corps comme en permanence pathologiques. C'est-à-dire que l'état pathologique du corps, le fait d'être malade et de devoir donc prendre certaines précautions, est pris en modèle de gestion du corps tout le temps, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer. Par exemple, dans l'histoire des gobelets, on commence par dire « prenez des gobelets quand vous êtes en déplacement, en voyage, dans des contextes où, effectivement, c'est compliqué d'avoir sa vaisselle, on ne peut pas la laver. » Donc, on a des fortes contraintes techniques dans les trains, dans les gares, etc. Puis, on a dit « c'est utile aussi dans les bars, les endroits où vous ne savez pas qui a bu dans votre verre, on ne savait pas s'il a bien été lavé. » Puis, à la maison, les jours où vous faites la fête, vous recevez d'autres personnes qui pourraient penser que vous-même, vous lavez mal vos verres. Et puis, finalement, chez vous, au quotidien. Donc, on observe, et c'est pareil pour plein de produits jetables, les serviettes hygiéniques, par exemple, au début, étaient promues comme indispensables en voyage. Et puis, après, on les a promues pour les règles en général, tout le temps, voire parfois même tout le mois, puisqu'on a vendu des protège-slips qui sont censés donc protéger les sous-vêtements des pertes blanches, des pertes qu'on peut avoir en dehors des règles, etc. Donc, on observe que ces produits jetables, d'abord de produits de niche destinés à être utilisés dans des circonstances particulières, de contraintes matérielles ou de maladies, ou bref, ont été progressivement présentés comme quelque chose qu'on utilise au quotidien. Et donc, ça incite à nous voir notre propre corps comme constamment pathologique. Or, notre corps n'est pas constamment pathologique. On peut être malade, on peut être en danger physiquement, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Et c'est pour ça que parfois, j'ai l'impression que, du fait de l'ubiquité des produits jetables, on se comporte toujours comme si on était fortement malade. Par exemple, on me pose souvent la question « Mais alors, il n'y a pas des produits jetables qu'il faut garder ?» Je dis « Bah oui, les produits utilisés en milieu hospitalier, bien sûr que c'est une bonne chose d'avoir des compresses stériles, d'avoir une paille quand on ne peut pas mâcher. Mais il faut voir que c'est justement des produits qui sont nés en milieu hospitalier, qui sont nés pour soigner des personnes qui étaient soit handicapées, qui étaient soit malades, ou en tout cas handicapées brièvement, par leurs conditions. Mais quel sens ça a de faire de ces produits exceptionnels la norme pour tout le monde ? C'est vendu, alors là, du coup, c'est vendu sous la bannière du confort. On nous incite à nous considérer comme étant constamment en dessous de nos propres capacités. C'est ça, là, l'imaginaire du confort. Pourquoi se fatiguer à lever son verre quand on peut aspirer dans une paille ? C'est absurde. Pourquoi se fatiguer à prendre l'escalier quand on peut prendre l'escalator ? C'est tout ça. Hein. Plus de confort, en fait, on pourrait mettre toujours plus de confort et donc on pourrait faire toujours moins d'efforts, alors même qu'on en est capable et alors même que c'est bon pour nous. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un moment où ces imaginaires-là, hygiénistes du confort, se renversent en leur contraire. C'est-à-dire, plus on a de confort, moins on fait d'efforts, plus on est en danger pour notre santé. Can't shake it off of me.
my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Petite blanche dans du poil sous les bras.
Alors la question que je me pose et que j'ai posée à Jeanne Guin, c'est pourquoi ? Pourquoi on en est encore là ? Pourquoi nous sommes aussi dépendants du marché ? On devrait avoir compris les mécanismes qui nous font acheter depuis le temps. On le sait que le capitalisme cherche à nous faire consommer tout ce qui est produit, même si on n'en a pas besoin. Alors je me demande, est-ce qu'on pourra un jour en finir avec ce consumérisme, à force de le critiquer ?
La promotion de la nouveauté, elle s'est toujours accompagnée de sa critique. La promotion de la surconsommation, elle s'est toujours accompagnée de sa critique. Il n'y a pas de moment dans l'histoire où tout le monde croyait béatement que ces choses-là étaient bonnes pour la société, bonnes pour l'économie, que gaspiller, ça engendrait de la prospérité. Il y a toujours eu des pour et des contre, et c'est vraiment ce que j'essaye de montrer dans mon livre aussi, de toujours faire une place à la critique et aux résistances qui existaient. Et aujourd'hui encore, il y a de la critique, il y a de la résistance. Après, il y a toujours autant, et voire beaucoup plus, de surproduction, de surconsommation. Une des raisons à cela, c'est évidemment le fait qu'énormément de gens y ont un grand intérêt, et que c'est ça qui produit de la richesse, et que donc énormément de gens ont intérêt à maintenir cette réalité en place, et beaucoup de gens sont contraints à y participer parce qu'ils doivent travailler. Donc ça, c'est aussi une réalité. Après, beaucoup de gens sont contraints à consommer tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à autre chose. La société consumériste, moi je la définis comme une société, enfin je suis pas la seule, hein, une société dans laquelle les gens sont dépendants du marché pour vivre, c'est-à-dire pour travailler et pour consommer. On travaille pour obtenir non pas des produits de consommation qu'on va consommer soi-même, mais pour obtenir un salaire qu'on va ensuite dépenser sur le marché du travail. C'est lié à la prolétarisation, hein, au fait qu'on ne possède pas les moyens de production et que donc on ne peut pas produire ses propres denrées alimentaires, ses propres biens, etc. Donc cette séparation entre sphère de la production et de la consommation, elle permet de maintenir les gens dans la dépendance au marché. On a besoin d'un travail pour avoir un salaire et on a besoin d'un marché de biens de consommation pour pouvoir acheter quelque chose avec ce salaire, parce que l'argent ne se mange pas. Et donc l'argent en lui-même ne sert à rien. Donc à partir du moment où toute la société est consumériste, c'est-à-dire que la plupart, la très grande majorité des gens ne peuvent pas produire eux-mêmes leurs biens, les choses dont ils ont besoin, tout le monde est contraint de participer au système. Et c'est ça aussi la puissance du consumérisme. Et c'est parce qu'à travers l'histoire, ça aussi, ça a un effet délétère, c'est que progressivement, les savoir-faire liés à l'autoproduction et à l'autoconsommation disparaissent. Je ne dis pas qu'ils disparaissent totalement, il y a encore énormément de gens, heureusement, qui élèvent des animaux, qui font pousser leur alimentation, qui fabriquent du textile, enfin qui font le textile dont ils ont besoin, qui fabriquent des objets, qui les réparent, qui les entretiennent, qui partagent entre eux de façon non marchande, etc., qui échangent. Il y a encore ce que on appelle parfois, entre écoféministes, de la subsistance, de l'économie de subsistance. Ça existe, surtout par exemple en milieu rural, où cette éthique-là du coup de main et ces connaissances-là n'ont pas disparu. Et aussi, on a accès à de la terre, on a accès à de l'espace pour bricoler, etc. Mais à partir du moment où votre famille, à travers les générations, a perdu aussi ses savoir-faire et qui ne sont pas transmis, vous êtes totalement dépendante du marché pour travailler, obtenir de l'argent et dépenser cet argent pour avoir vos biens de consommation. Donc il y a cet effet-là. Et puis il y a aussi une dernière chose, c'est tout simplement l'absence de loi. C'est-à-dire que pour que la société change et pour que l'économie surtout change, on a besoin de lois. De lois qui interdisent certains produits, qui interdisent certaines pratiques et qui interdisent de délocaliser ces pratiques. Parce que la plupart des biens de consommation qu'on consomme aujourd'hui sont toujours autant issus de l'esclavage, de l'exploitation, de l'écocide et d'autres formes de prédation. Mais simplement, ces prédations-là sont délocalisées. Alors on va croire qu'en France, on a les lois qu'il faut, mais on va importer, en quelque sorte, des choses qui seraient illégales chez nous. Donc, il faut des lois pour évidemment interdire cette criminalité importée. J'ai envie de l'appeler comme ça. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est ça qu'on fait. Donc, évidemment, tant que les lois ne suivent pas, et tant qu'on aura le droit, peut-être pas de produire par l'esclavage en France, mais d'importer des produits issus de l'esclavage ailleurs, les choses ne changeront pas. Et c'est pour ça que moi, j'appelle ma méthode matérialiste aussi, c'est-à-dire je mets l'accent sur ces réalités de contraintes matérielles que vivent les gens et sur ces réalités légales, et que je ne fais pas référence par exemple au fait que les gens n'aient pas conscience ou ne soient pas au courant ou ne réalisent pas ou ne comprennent pas. D'abord parce que c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai. Comme je l'ai dit, il y a toujours eu de la critique, de l'enquête, de la recherche, de la dénonciation de ces pratiques-là. Et il y a eu des victoires. Et puis aussi, par ailleurs, parce que le fait d'avoir conscience ne change pas forcément les choses tout de suite. On est très nombreux et très nombreuses à avoir bien conscience des problèmes. Et cette conscience ne change pas la réalité qu'on subit. Compter sur la prise de conscience pour changer les choses ne suffit pas. Ça crée principalement des consciences malheureuses. On dit aussi parfois des injonctions contradictoires ou la dissonance cognitive. C'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui. Et ça exprime, je pense, justement, ce sentiment qu'on a beau s'informer. Si on n'agit pas sur les lois et sur la réalité matérielle de nos vies, c'est-à-dire si on ne donne pas aux gens le moyen de faire et consommer autrement, ils seront juste obligés de faire des choses dont ils savent qu'elles sont mauvaises. Et c'est le cas. Et c'est ce qu'on fait depuis longtemps.
Ne désespérons pas. D'ailleurs, Du Poil sous les bras est là pour donner de l'espoir. Et ici, l'espoir se trouve du côté des formes d'économie alternatives, des personnes qui s'auto-organisent, des résistances locales au capitalisme. Alors d'accord, c'est un peu David contre Goliath, mais on peut tenter d'autres voies. Jeanne Guin citait à l'instant les pratiques de subsistance, ce ne sont pas les seules.
Les pratiques de subsistance, évidemment, subsistent elles-mêmes, c'est-à-dire continuent à exister. Il y a de nouvelles formes intéressantes qui apparaissent aussi justement parce qu'elles apparaissent en réaction au marché et au consumérisme. Donc c'est tout le mouvement, tous les mouvements en faveur de la récupération, de l'autoproduction, donc sous la forme de la recyclerie, la réparation, les coopératives de toutes sortes, donc qui viennent souvent de gens qui ne sont pas forcément issus de mondes qui ont une tradition autour de l'autoproduction et de la réparation par soi-même et qui au contraire essayent de réinventer, de se réapproprier ces savoirs dont ils voient bien qu'ils disparaissent. Donc évidemment c'est une bonne chose. Après ça reste tout petit. C'est un des vices un peu, je trouve, de ce qu'on appelle l'économie circulaire aujourd'hui, c'est-à-dire les politiques publiques qui visent à encadrer et soi-disant à soutenir toutes ces initiatives-là, c'est qu'elles sont coexistantes avec des initiatives qui visent à soutenir le marché. C'est-à-dire d'un côté, on dit « Ah oui, l'économie circulaire, c'est très bien, il faut développer, on va créer des ressourceries, on va soutenir, etc. » Donc très bien, ok, on soutient. Et puis de l'autre côté, eh bien, on continue à donner du foncier à la grande distribution, on continue à importer tout et n'importe quoi. Enfin bref, on fait une chose et son contraire. Et évidemment que ça ne peut jouer qu'en faveur du marché du neuf et du marché consumériste, qui a beaucoup plus de moyens que les propositions anticonsuméristes d'économie alternative qui existent aujourd'hui et qui sont très intéressantes et très utiles. Mais on a beaucoup moins de moyens, ne serait-ce qu'en termes de logistique, en termes de communication aussi. Jamais la communication d'une ressourcerie locale, même soutenue par la municipalité ou la région, ne pourra égaler la puissance de frappe de la publicité aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, je pense qu'il faut absolument lutter contre la publicité et légiférer contre la publicité. C'est pour moi un des chantiers les plus primordiaux pour lutter contre le consumérisme d'un point de vue légal, c'est d'interdire la publicité. Parce que tant qu'il y a cette emprise idéologique partout, tout le temps, constamment renouvelée dans tout notre environnement, que ce soit notre environnement réel ou notre environnement médiatique, on ne pourra pas lutter à armes égales.
Dans le désir de nouveauté, Jeanne Guin explique comment l'obsolescence a été activement et ouvertement conçue, gérée, planifiée, promue, théorisée, légalisée, fiscalement encouragée, etc., etc., au gré des opportunités marchandes. Le marché n'est jamais à court d'idées. Il rebondit toujours, il sait jouer sur nos désirs et les manipuler. Et à propos d'obsolescence, il y a un passage du livre qui aborde la notion d'obsolescence de l'homme.
Alors l'obsolescence de l'homme, ou l'obsolescence humaine, pour être plus inclusive, moi je dis plutôt obsolescence humaine, c'est une expression qui vient d'un philosophe allemand qui s'appelle Günther Anders, qui l'avait mise au point pour désigner quelque chose qu'il observait de son temps. Donc lui, il est du milieu du XXe siècle. Enfin, quand il écrit, c'est dans les années 1950 aux États-Unis, et il observe ce sentiment chez la population états-unienne d'être inférieur aux machines, et surtout du fait de l'innovation constante et du renouvellement constant des moyens de production. Le sentiment de n'avoir jamais les bonnes compétences, c'est-à-dire vous développez des compétences pour vous servir d'outils, pour vous servir de machines, pour travailler tout simplement, et puis les outils changent, les machines changent, et donc vos propres compétences deviennent obsolètes, et donc vous sentez vous-même obsolète. Cette notion, elle désigne quelque chose qui est connu depuis bien avant Günther Anders, en fait. Dans le chapitre 2 de mon livre, je parle des mouvements, des mouvements sociaux contre l'innovation dans le travail, justement. Que ce soit, c'est très connu pour les manufactures, les usines, c'est toute cette période de la révolution industrielle qu'on appelle l'udite, c'est-à-dire le fait que des ouvriers ou des artisans, bref, des personnes qui travaillaient avec certains outils face à la mécanisation de la production dans leur secteur se sont battus contre les patrons et contre leurs machines, surtout, hein, on détruit des machines, on brûlait des usines, se sont battus contre cette mécanisation qui arrivait avec la machine à vapeur, hein, de la production, parce qu'ils sentaient justement que leurs compétences, leur savoir-faire allaient perdre toute leur valeur sur le marché du travail. Et c'est bien ce qui s'est passé. Ces gens-là se sont retrouvés au chômage ou ont retrouvé du travail, mais un travail différent, moins qualifié, moins bien payé. Donc cette idée que l'on a une obsolescence humaine liée à la perte de valeur des savoir-faire et des compétences sur le marché du travail du fait d'une évolution, d'une innovation dans les outils de travail, elle est perçue et dénoncée depuis très longtemps. Moi, le chapitre 2 commence donc à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et en France, c'est-à-dire quand commence ce qu'on appelle la révolution, ce qu'on a appelé après la révolution industrielle. Ça existe aussi dans le monde agricole, hein. Il y a aussi des mouvements sociaux contre le machinisme agricole, contre le fait qu'il y ait de plus en plus de machines dans le travail agricole en milieu rural et que donc les gens ne trouvent plus de travail ou un travail qui n'est plus le même. On leur demande de devenir, en gros, assistant des machines, conducteur de tracteurs, surveillant d'écran, et non plus vraiment agriculteur au contact de la terre, au contact des végétaux qui font pousser, etc. Donc ça, c'est vraiment à travers toute l'histoire du machinisme, on a déjà cette idée d'obsolescence humaine, d'obsolescence des compétences. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Actuellement, on prend l'exemple le plus récent, la panique des créateurs d'images, par exemple, ou des traducteurs et des traductrices face au travail assisté par intelligence artificielle. Moi, je dis toujours travail assisté par intelligence artificielle. Je ne dis pas les images produites par IA, par exemple, parce que l'IA ne produit rien toute seule. Les machines n'ont jamais rien produit toute seule. Les machines sont des outils qui assistent certains humains dans certaines tâches. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle assiste certains travailleurs, travailleuses pour produire des images, pour produire des textes, etc. Donc, les personnes qui jusque-là produisaient ces textes sans l'assistance de cette intelligence artificielle se sentent en obsolescence humaine, et c'est bien compréhensible. Elles ne sont pas remplacées par des machines. Leur métier évolue et il devient obligatoire pour elles de travailler assistées par ces machines. Et du coup, leur métier est différent, est en général déqualifié et moins bien payé. Je discutais récemment avec une traductrice qui m'explique que maintenant, ce n'est pas qu'elle ne travaille plus ou que les machines ou que ChatGPT travaille à sa place. C'est que maintenant, on lui demande de travailler non plus sur un texte, mais sur deux textes. Jusque-là, elle avait un auteur, une autrice à traduire avec son texte. Maintenant, elle a le texte de l'auteur ou de l'autrice, plus la proposition de traduction de ChatGPT ou je ne sais quelle intelligence artificielle. Et elle doit vérifier si ChatGPT a bien fait son travail. Donc, vous voyez que son travail est complètement transformé, il est moins intéressant, il est déqualifié et il lui donne surtout une posture d'infériorité. C'est-à-dire, elle n'est pas la personne qui traduit, elle est la personne qui vérifie que la machine a traduit correctement. Donc, elle a une tâche d'assistante de travail en machine. Qui assiste qui ? On peut y réfléchir. En tout cas, les machines ne travaillent pas tout seules. Et donc, voilà un exemple aussi d'obsolescence humaine. Et c'est quelque chose qui est très récurrent, tout simplement parce que dans le capitalisme, c'est-à-dire dans un espace de marché concurrentiel où il s'agit toujours de fournir plus de croissance, eh bien, le fait de mécaniser la production ou de l'automatiser, hein, ça peut être aussi numérique, le fait d'automatiser une production permet de produire plus, plus vite, plus rapidement et donc éventuellement de gagner un avantage concurrentiel. Donc il y a toujours une fuite en avant vers plus d'automatisation, plus d'innovation. L'innovation apporte un avantage concurrentiel et donc l'obsolescence aussi. Et ça, ça a été observé. On trouve des choses chez Marx déjà, donc c'est vraiment quelque chose qui se maintient, qui s'accélère, mais à chaque fois que ça arrive, tout le monde a l'air de découvrir la chose et tout le monde a l'impression que la nouvelle technologie est vraiment l'advenue de la dernière, de la plus puissante, qu'on en arrive au stade ultime de l'aliénation et du remplacement par les robots. Mais dans 2-3 ans, ce sera autre chose, si on continue sur cette même trajectoire. Bien sûr, puisque là on parle des outils de production du travail, mais le marché des biens de production pour le travail est un marché. Donc il faut bien fabriquer toutes ces machines, toutes ces IA, toutes ces machines agricoles, toutes ces machines à produire. Donc évidemment que ça crée une nouvelle demande pour ça crée de nouveaux marchés à chaque fois, et donc ça accélère cette logique-là, et ça crée aussi de la demande pour tout un espèce de nouveau business de la formation qui a tout à fait perçu l'intérêt de parler d'obsolescence humaine et d'obsolescence des compétences. Là encore, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup dans mon travail, ce n'est pas du tout caché. On pourrait dire oui, vous accusez les gens de vouloir faire de l'obsolescence, mais c'est pas prouvé. Non seulement c'est prouvé, mais en plus, c'est assumé par les acteurs dont je parle. C'est-à-dire que le management, le coaching, les ressources humaines, toutes ces professions qui sont nées au XXe siècle, déjà au XIXe siècle, mais qui se sont appelées comme ça, en tout cas au XXe siècle, toutes ces professions de l'ordre de la gestion qui réfléchissent à comment améliorer les processus de travail et que faire des travailleurs qui sont obsolètes, mais ils ont vraiment formulé ça. Hein. Ils disent, on va proposer de la formation pour rebondir, pour que les gens développent de nouvelles compétences quand leurs compétences deviennent obsolètes. Donc, ils savent vraiment que c'est ça qui se passe. Ils s'en contentent tout à fait et ils essayent d'en tirer davantage de profit.
Bon, vous l'avez compris, si on vous dit qu'un produit est nouveau, méfiez-vous. La nouveauté n'est ni universelle, ni absolue, ni gage d'intérêt ou de qualité. Les belles promesses des capitalistes ne sont en règle générale qu'en fumage et mensonge. Jeanne Guien, dans son livre, décortique et explique comment l'économie de l'offre et la surproduction structurelle du capitalisme imposent le marché de la nouveauté. Et maintenant, finissons cette émission avec la question existentielle, celle que le marché impose aux femmes de se poser à cause de la surproduction de poils, nous dit-on.
Alors, le poil sous les bras, c'est paradoxalement le seul poil qui ne me dérange pas. Pas au sens où ça ne me dérange pas de les faire pousser, mais où ça ne me dérange pas de les raser, parce que j'ai jamais eu... Enfin non, j'exagère, c'est même pas vrai. Je n'ai plus de problème liés au rasage ou à l'épilation sous les aisselles. Par contre, tout le reste de mon corps, c'est une catastrophe, c'est-à-dire je développe des abcès, ça fait des poils sous la peau, enfin c'est vraiment une torture et de l'automutilation. Je me rends compte sur tout mon corps quoi que c'est non seulement un complexe, une préoccupation, une dépense, un truc qui fait chier la vie, mais en plus une vraie automutilation se suivant les parties du corps. Et j'allais te dire que sous les bras, heureusement ça va. Mais en fait, c'est même pas vrai, parce que je me souviens, en te disant ça, qu'étant adolescente, j'ai dû me faire opérer, opérer avec anesthésie locale, hein, pas une grosse opération, mais néanmoins une opération, pour enlever un abcès lié à l'épilation et à toute cette merde. Donc c'est vraiment, si j'ai quelque chose à dire sur l'épilation, c'est que c'est vraiment une perte de temps, d'argent et une automutilation, et que ça vaut pour toutes les parties du corps, finalement.
Je vous laisse avec la dernière phrase du livre de Jeanne Guien. Je cite « Au fil des contradictions, il a toujours été question de promouvoir une catégorie sociale au rôle d'avant-garde de l'histoire, chargée à ce titre de laisser advenir la nouveauté, tout en en revendiquant l'autorité et les privilèges associés. Posture absurde et violente qui devrait suffire à ne plus rendre désirable tant de nouveautés. Voilà, le désir de nouveauté est une saine lecture pour nous aider à résister aux injonctions des marchés. Du poil sous les bras, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Et on se retrouve bien vite en FM sur les radios locales et puis en podcast aussi, bien sûr.